Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 430 du podcast Jeune Actu. C'est la rentrée NFL, la preview de la semaine 1 est arrivée. À mes côtés pour en parler, Victor Roulier, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Victor qui fait office de petit nouveau hein, dans l'émission, puisque donc tu en avais fait un débrief, non, l'an dernier ?
J'avais fait un débrief, ouais.
Voilà, bon, officiellement intégré cette saison, donc vous l'entendrez plus souvent. Enfin, tu étais déjà intégré dans l'émission Draft, je dis ça, c'est pas deux émissions séparées du coup. Donc tu étais dans l'équipe podcast Draft, tu es promu dans l'équipe podcast NFL, donc tu as été drafté quasiment, c'est l'ironie de la chose. Donc, la preview de la première semaine de la NFL, vous avez l'habitude, c'est le même programme que les années précédentes, on ne change pas une formule qui gagne, après tout. Un débat, pour commencer, ça c'est comme l'an dernier, un débat pour commencer, c'est l'affiche de la semaine, les pronostics, vos questions et puis un petit détour par les meilleurs cotes Unibet parce que l'émission du jeudi vous est présentée cette année par Unibet, partenaire depuis 5 ans maintenant. Si vous voulez aller parier sur la NFL, c'est chez Unibet que ça se passe. Tous les liens sont sur le site, les meilleures cotes aussi. Et puis tout au long de la saison, vous retrouverez comme d'habitude les articles avec les meilleurs paris le samedi et puis sur les réseaux sociaux, toujours les bons plans et les meilleures cotes de chez Unibet. Merci de nous suivre et c'est parti pour le premier débat alors.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Petite entrée en matière groovy avec Kurt Warner, le plus grand quarterback de tous les temps, évidemment, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Kurt Warner qui nous emmène donc vers le premier débat et un débat plutôt classique de rentrée. On a fait beaucoup de previews pendant l'intersaison. Vous pouvez toujours écouter, évidemment, les 32 pastilles et le Power Ranking. On a fait des pronos sur le site, à l'écrit, mais on n'a pas encore fait de pronos vraiment à l'audio. Avant, quand on avait seulement une ou deux émissions de preview, on faisait tous les pronos. Là, on les fait dans l'émission de rentrée. Victor, on va faire simple. On va faire playoff AFC, playoff NFC. Avec à chaque fois, ça nous permettra de donner les quatre vainqueurs de division, les trois équipes qui vont en wildcard. Et puis derrière, on verra un peu plus loin qui va en finale de conf, qui va au Super Bowl et qui gagne le Super Bowl. Je te laisse commencer. On va partir en AFC. Du côté de cette conférence américaine. Là, il y a une question quand même que je voulais poser parce que j'ai remarqué c'est des trucs qui sont revenus beaucoup dans les commentaires sur à la fois le Power Ranking et les pastilles de preview. Est-ce que la hype sur les Bills est justifiée ? Je te pose la question parce que je sais que tu fais partie des hypés sur les Bills.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que la hype sur les Bills est justifiée parce qu'il y a une chose qui rassure. En plus des équipes qui font des bonnes saisons, c'est la constance et la progression. Et les Bills, ils ne sont pas arrivés l'année dernière de nulle part. On les voit progresser depuis 3, 4 ans. Ils ont le quarterback qui évolue avec l'équipe, le coach qui est toujours le même, les joueurs qui sont globalement tous les mêmes. Et autant certaines équipes, parfois, elles ont un besoin de renouvellement à un moment, sinon elles se cassent les dents. Là, on voit bien une équipe qui n'est pas encore à son sommet, qui est en progression constante. Donc oui, et moi d'ailleurs, je les avais mis premiers de l'AFC dans mon prono personnel. Donc forcément, j'y crois beaucoup. Après, bon, bien sûr, il y a l'épouvantail Kansas, mais globalement, on est aujourd'hui dans le top 2 de la conférence pour moi.
Alors, top 2 de la conférence, pendant le power ranking, Lucas avait soulevé le problème de la défense qui est autour de la 15-16e place la saison dernière sur les yards et les points encaissés. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour toi ou pas, au sens où on a eu le débat pendant l'émission du power ranking, c'est-à-dire est-ce que l'aberration c'est l'année d'avant où ils sont deuxième défense ou l'année dernière où ils sont 16e défense?
Un peu entre les deux, c'est-à-dire que deuxième défense c'était peut-être un peu surélevé, mais il faut bien se dire que l'année dernière il y a quand même pas mal de blessures, notamment Matt Milano au niveau des linebackers, il y a eu quand même des blessures et des contre-performances, et globalement cette 15e place, enfin cette autour de la 15e place de la défense, elle s'explique principalement par les linebackers et le pass rush. Et le pass rush a quand même été renforcé, notamment par la draft. Donc, globalement, moi, pour moi, sur le papier, c'est l'équipe la plus complète de cette conférence. Ce qui ne veut pas dire que c'est la meilleure, parce que, bon, forcément, voilà, y a d'autres équipes qui ont des atouts et on va y revenir. Mais honnêtement, quand je regarde l'attaque, la défense, il y a des choses, hein. C'est sûr que des lignes, ça reste pas des lignes top 5, mais c'est pour moi très solide. Si on regarde l'entièreté d'effectifs, oui, c'est ultra complet.
En tout cas, preuve de votre bon boulot sur la draft et l'équipe draft dont on parlait, et on les salue tous, c'est que moi, je suis convaincu aussi par leurs jeunes pass rushers, donc j'ai tendance à penser qu'en effet, ils sont un poil plus complets, même si évidemment, ils ont un très bon quarterback, je ne doute plus de Josh Allen, mais ils n'ont pas le meilleur quarterback de la conférence. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, la hype sur les Bills justifiée. Sur cette question, on va enchaîner donc avec nos pronostics. Vainqueur de division. Donc, tu as les Bills.
J'ai les Bills.
En AFCS.
Tout à fait.
Alors, je te laisse enchaîner. Donne-moi les trois autres vainqueurs de division.
Alors, je vais d'abord commencer sur deux qui ne me posent aucun problème. Donc, on a parlé de l'Est. On parle de l'Ouest, Kansas City. Pour moi, ça me paraît une évidence. Et si on parle du sud, Tennessee.
Ouais, on a la même chose.
Sachant que ce qui me pose problème, c'est évidemment l'AFC Nord. Et du coup, je me permets d'empiéter, si tu veux, entre le vainqueur de division et le premier wild card. Parce que pour moi, ça se joue vraiment entre deux équipes. Alors certains diront trois, mais pour moi, c'est deux. Ça se joue entre Browns et Ravens. Et donc, je pense que l'équipe qui ne sera pas championne de l'AFC Nord sera en wild card entre ces deux-là, quoi qu'il arrive. Donc, personnellement, c'est les Browns, parce que l'attaque a été performante l'année dernière, elle est exactement la même cette année, et la défense a été renforcée. On verra comment se comportent, et Jeremy Owusu-Koramoah et tous les autres renforts de la défense, mais, et Jadeveon Clowney, évidemment. Mais encore une fois, c'est très difficile, avant la dynamique de la saison, de faire de pronostics, mais sur le papier, les Browns, pour moi, c'est meilleur que les Ravens, notamment parce que les Ravens ont quand même connu des grosses blessures au niveau des running backs et que c'est quand même la base de leur jeu.
Moi, je vais aller totalement au contre-pied puisque j'avais mis les Steelers vainqueurs de cette division. Oui, il y a cette ligne offensive qui pose problème, mais encore une fois, et on l'a dit pendant le classement Power Ranking, pour le coup, s'il y a une équipe à laquelle je peux faire confiance sur la gestion de ce genre de choses avec un quarterback vétéran, avec un coach vétéran maintenant, c'est Pittsburgh. Il a géré toutes sortes de lignes offensives au cours de sa carrière, Ben Roethlisberger. Avec l'arrivée de Najee Harris au sol, avec pas mal d'armes dans les airs, je pense qu'ils peuvent s'en sortir et je pense qu'ils ont une très bonne défense. Est-ce que les Browns sont meilleurs? Je suis pas encore sûr. Ils ont le potentiel peut-être pour être aussi bons, mais ils sont pas encore aussi réguliers. En tout cas, Baltimore a aussi une très bonne défense. Mais par contre, pour rejoindre ce que tu disais sur le lien entre cette division et le wild card, moi je mets carrément en fait trois équipes de cette division en playoff.
Moi aussi.
C'est-à-dire
moi
que aussi. On est d'accord. Donc ce qui veut dire que moi j'avais Steelers en vainqueur de division, mais Browns et Ravens en wild card.
Mais de toute façon, j'ai mis volontairement Steelers un peu en retrait, mais je ne dis pas qu'ils vont être 5 victoires derrière. Hein. Ouais, ouais. Il y a Ben Roethlisberger, il y a Mike Tomlin, il y a des cibles et il y a un excellent front seven. Donc moi aussi, je les avais en white card.
Alors, si je résume, on a déjà une bonne partie de nos équipes de playoff AFC, puisque donc on a tous les deux Bills, Titans, Chiefs en vainqueur de division, et on a tous les deux donc un vainqueur de la NFC Nord différent, mais les deux autres en wild card.
Oui.
Donc, Browns, Ravens, Steelers en playoff et avec un vainqueur de division différent selon nous. Donc, il ne reste plus qu'une place. Il ne reste plus qu'un wild card. Quel était ton dernier wild card ?
Eh ben moi, j'ai hésité entre l'AFC Est et l'AFC Est, puisque pour moi, le dernier wild card, c'était Dolphins ou Patriots. Et je vais partir sur les Dolphins. Je vais partir sur les Dolphins parce que la défense est quand même rodée et que je fais assez confiance à Flores pour tirer le meilleur de sa défense. Et que l'attaque, même si je ne suis pas un convaincu de Tua, en tout cas après toutes les blessures qu'il a eues, il est sophomore. Il a 7 fois eu une intersaison entière en tant que titulaire. Il va avoir un playbook dessiné pour lui. Il a eu le temps d'apprendre les schémas. Et en plus, il a de nouvelles cibles, notamment Jalen Waddle, qui est son ancien meilleur ami d'université. Il a une ligne qui s'est améliorée. Donc, disons que Mac Jones, j'y crois en soi, mais ça reste un rookie. Et il y a encore beaucoup d'incertitudes, notamment au niveau des cibles chez les Patriots. Il faut voir comment les Hunter Henry, les Jonnu Smith et Nelson Agholor, etc., s'acclimatent au truc.
On m'a reproché de pas assez mouiller pendant l'émission du Power Ranking et du coup je vais le faire là en réponse à ce que tu viens de dire. Je pense que les Patriots seront au-dessus des Dolphins et je pense qu'aucune de ces deux équipes ne seront en playoff.
D'accord.
Et je vois les Chargers en dernier wild card. Okay. Parce que tous les ans dans les pronostics, j'aime bien mettre un wild card, un dernier qui change un peu et cette équipe a amorcé une belle remontée. Alors il y a quand même pas mal d'inconnus, hein, j'en conviens, sur la régularité de la défense, notamment de l'ami Joey Bosa, sur la deuxième année de Justin Herbert avec un nouveau coach en plus. Mais voilà, Brandon Staley, il peut prendre la défense. Justin Herbert a été tellement fort que j'espère que ça va continuer et ça ferait un peu de renouvellement. Mais donc Chargers en playoff et encore une fois, pour ce qui se passait juste en dessous, je pense qu'en effet, Dolphins, Patriots, ça va batailler. Mais je verrais plus les Patriots au-dessus parce que Bill Belichick, parce que j'ai paradoxalement plus confiance en Mac Jones que tu as Tagovailoa. Donc, pourquoi pas? J'ai une réputation à entretenir de hater des Dolphins. C'est une de mes nouvelles réputations depuis un an ou deux. Donc, je vais dire Chargers pour le dernier. Qui remporte cette conférence?
Les Bills.
Les Bills. Donc, on part tous les deux plus ou moins sur une sorte de finale Bills-Chiefs et on a un vainqueur différent, quoi, si je comprends bien.
Oui, globalement. Et en soi, c'est vrai que c'est difficile de parier contre Mahomes, mais il y a aussi, j'avoue, hein, de la subjectivité dans le sens où ça fait 2 ans qu'on a les Chiefs au Super Bowl, ça ferait du bien aussi de voir un peu de renouvellement et des nouvelles têtes. Donc, c'est en soi, je ne serais pas surpris que Kansas City soit encore, mais j'ai envie de dire Buffalo.
Les Bills. En NFC, on va donc sur les vainqueurs de division. Allez, je me permets de commencer. Comme ça, tu répliques et tu me dis si tu as à peu près pareil. Buccaneers pour la NFC Sud, Rams pour la NFC Ouest, Packers pour la NFC Nord, Washington pour la NFC Est.
Ah, bah, je suis très étonné parce que j'écoutais votre excellent Power Ranking. N'hésitez pas à aller le retrouver sur les plateformes. Et vous avez mis Dallas au-dessus de Washington.
Alors, oui, mais parce qu'on m'a forcé.
Oui, mais moi, j'ai été très chafouin parce que pour moi, Washington est le vrai favori de la NFCS, sachant que c'est la NFCS, donc ça sera évidemment n'importe quoi toute l'année. Et si ça se trouve, les Giants vont être champions de division avec 4 matchs d'avance. Hein.
Mais je suis tout à fait d'accord, mais j'ai dû me battre. J'ai dû me battre. Moi, je trouve qu'ils ont la meilleure défense du plateau et de loin dans cette division, et de loin.
Oui. Et ils ont bien renforcé l'attaque.
Et voilà, ils ont quand même un coureur correct, ils ont des cibles. Je sais que Raphaël n'était pas fan des cibles derrière Terry McLaurin, mais moi, je trouve qu'il y avait quand même du matos.
Oh, les Curtis Samuel, etc., je suis pas un grand fan, mais ça reste quand même une énorme progression par rapport à ce qu'ils avaient l'année dernière.
C'est
et
ça.
Et puis, surtout Fitzpatrick, je veux dire, c'est un quarterback limité, mais ça reste 10 fois mieux que ce qu'ils avaient l'année dernière.
Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils font les playoffs l'an dernier avec un bilan pourri, hein. Mais ils font les playoffs avec des quarterbacks qui sont quand même, on est dans le bricolage, quoi. Taylor Heinicke, Alex Smith et Dwayne Haskins sur le début de la saison. Ils commencent avec Dwayne Haskins quand même. Donc, bah, moi, Washington, ça me semble assez clairement, clairement favori. C'est-à-dire que la défense des Cowboys est en trop gros chantier pour que je dise qu'ils sont, on a déjà vu trop d'équipes avec des attaques comme ça qui peuvent être en feu, mais des défenses qui prennent des cartons pour que je dise oui, les Cowboys sont vraiment favoris parce que Dak Prescott revient, quoi.
Bah, donc, sans dire que ça va être l'attentat d'année dernière à marquer 30 points pour en prendre 35, moi c'est ça, les Cowboys en soi. Si on parle que de l'attaque, évidemment qu'ils ont la meilleure attaque de la conférence, enfin de la division.
De la division,
ouais. Et une des meilleures de la conférence. Mais la défense, moi, je suis pas rassuré du tout.
Alors, donc ça donne qui pour toi les vainqueurs de division ? Donc Washington
donc,
aussi, si
coup,
j'ai bien compris.
Washington aussi. Packers, Buccaneers, ça je pense que globalement on sera okay. Tous d'accord.
Bon, la NFC West, ça peut être n'importe qui pour tout le monde à chaque fois.
La NFC West, ça peut être n'importe qui. Alors, j'ai les Rams aussi. Mais par contre, quand on a fait des pronos de l'ensemble de la rédaction, je suis assez stupéfait de la hype Rams qui existe. Parce que c'est vrai qu'on peut en parler après quand on fera les vainqueurs de conférences, etc. Mais les gens, ils voient très, très haut. Moi, je pense que globalement, c'est bien. Il y a des gros défauts ou incertitudes comme la ligne offensive. Et je vois les Rams gagner à division, mais c'est sûr que ça va être bataille jusqu'au bout, à mon avis, avec d'autres équipes.
La ligne offensive avait souffert il y a 2 ans, mais l'an dernier, c'était un peu mieux quand même.
Globalement, ça reste. Enfin, Whisworth, il a 72 ans, j'adore. Ouais,
mais il fait le taf. Hein.
Mais ouais, j'ai toujours un peu de mal à me projeter. Mais bon. Ouais,
moi, je mords hein, dans cette hype. Je l'ai montré aussi dans les previews. Sur le principe, qu'encore une fois, ils sont allés au Super Bowl avec Jared Goff. Ils récupèrent Matt Stafford. Donc, ça me paraît quand même être un sacré upgrade. Et derrière, quand on me dit oui, mais ils ont perdu Brandon Staley, coordinateur défensif, etc. Oui, mais ils n'avaient pas Brandon Staley quand ils vont au Super Bowl. Hein. Et pourtant, ils ont une excellente défense aussi. C'est absolument pas pour diminuer le travail de Brandon Staley, mais je pense que Aaron Donald, il est toujours là. Il est toujours le meilleur défenseur de la ligue. Jalen Ramsey est toujours là. Il est toujours un des meilleurs cornerbacks de la ligue quand il est motivé. Ce sera peut-être un peu moins bon qu'avec Brandon Staley. Ils ont perdu des bons joueurs qu'il y avait autour, mais quand tu as ces bases-là, après les role-players sont importants, mais il y a des Donald et des Ramsey, le bénéfice qu'il y a autour. Donc, je peux comprendre que ça morde. Après, la division est très difficile. Et est-ce qu'on se retrouve dans le cas d'une AFC Nord où ils peuvent envoyer un ou deux autres sur les wildcards, donc 3 équipes au total en play-off ? Je te dis ça parce que moi, j'ai Seattle et les 49ers en play-off. En wildcard.
Moi, j'ai Seattle.
OK.
J'ai pas les 49ers.
Est-ce que tu as du coup les Cardinals ?
Non plus.
Non plus. Donc, seulement, entre guillemets, seulement 2 équipes de la NFC West.
Oui, maintenant qu'il y a 7 qualifiés en playoff, on en vient à dire seulement 2
c'est
équipes
ça,
par division.
C'est ça.
Mais oui.
Donc tu as qui alors ? Tu as Seattle et les 2 autres, c'est qui ?
J'ai Dallas.
Ok, moi aussi.
Les Cowboys. Et j'ai Minnesota.
Ok, Minnesota. Ce qui n'est pas forcément un choix populaire en effet en ce moment. Tu n'as pas peur de leur défense un peu chaotique ?
Si. Mais je pense que déjà, ils ne peuvent pas faire pire que ce qu'ils
ça,
ont fait
vrai.
L'année dernière. Donc, je me dis que ça va quand même être renforcé. Il y a des retours de blessures. Il y a quand même une nouvelle dynamique qui est insufflée. Donc, on va dire que ça va faire le taf. Et puis, en fait, moi, c'est-à-dire que si tu me demandes qui sont les 7 meilleures équipes de la conférence, j'ai les 49ers dedans. Pourquoi je ne les mets pas en play-off ? C'est que les 49ers, ils vont affronter 2 fois les Rams, 2 fois les Seahawks, 2 fois les Cardinals. Quand les Vikings vont affronter 2 fois les Bears, 2 fois les Lions, quand les Cowboys vont affronter 2 fois les Eagles, 2 fois les Giants. Donc, de base, je me dis, si entre guillemets, on prend la valeur brute des équipes, mais qu'on essaye de, on va dire, ajuster avec le calendrier et des divisions, du coup, moi, j'ai les Cowboys et les Vikings qui passent dessus.
Très bien. Donc, moi, j'ai quand même les 49ers avec Seattle et les Cowboys. Donc, on n'est quand même pas très loin hein, sur les choix d'équipe en wildcard et en playoff en général. Vainqueur de la conférence ?
Packers.
Packers. Ah ouais, tu les vois passer l'obstacle de la finale de conférence après 2 échecs.
Ah, ça va arriver un jour. Tu sais, j'ai connu une équipe qui perdait des finales de conférence.
Oui, c'est vrai.
Les
Eagles,
ans,
pour ceux qui n'ont pas suivi, en ont perdu 5 de suite, non ?
Non,
ou 5 au total.
En soi, on perd les Rams, Buccaneers, Panthers,
les Cardinals aussi.
Cardinals, donc 4 défaites et victoire contre les Falcons. Donc,
voilà, bon, ça fait un paquet. D'accord, donc ça passe pour les Packers. Moi, je ne vais pas être original, c'est les Buccaneers qui sont ultra favoris. Les bouderies d'Aaron Rodgers, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on va croire que je fais une fixette, mais j'ai du mal à croire qu'ils vont atteindre une 3e finale de conférence dans l'ambiance actuelle de cette équipe, mais pourquoi pas.
Moi, je crois au Last Dance. Et Adam Rodgers.
Ouais, mais tu vois, c'est pareil, le Last Dance, c'est devenu un peu, on se tripote là-dessus parce qu'il y a eu un docu Netflix, ouais. Mais tu vois, genre, c'est a posteriori, c'est-à-dire qu'à l'époque, les mecs hurlaient pas tous les 2 minutes parce que là, Rodgers, il peut pas faire une interview sans dire, je joue comme si c'était le dernier jour, je ne sais pas comment ça va se terminer, on prend chaque minute comme elle vient. Non, mais tu vois, on s'en fout, au bout d'un moment, joue, souris et voilà. Jordan passait pas ses journées en 98 à dire, oh, peut-être que demain je vais mourir, peut-être que demain sera fini et tout le monde nous déteste, même au sein de l'organisation. Ah là là. là. Enfin, voilà,
ouais, c'est pas un enfant de cœur non plus. Mais...
Non, mais je veux dire, The Last Dance s'est présenté 20 ans après.
Non,
donc,
mais quand je dis Last Dance, c'est parce qu'ils ont fait un tweet Last Dance avec. Bah,
c'est ce que je dis, qu'ils arrêtent de se marketer eux-mêmes alors que c'est pas encore fait.
Après, en soi, c'est.
Et The Last Dance, ils ont pu le dire parce qu'ils ont gagné, tu vois. Genre, tu l'annonces pas avant comme ça.
Ben, c'est ça, mais c'est aussi une envie de renouvellement, je l'assume, hein, aussi de ce côté-là. Et puis, il y a quand même le côté, enfin voilà, depuis les Patriots 2003-2004, on n'a jamais vu de doublé. Et moi, je me dis quand même, les Buccaneers, bon, ok, c'est l'effectif le plus complet, ils ont tous les titulaires qui reviennent, mais enfin, 2 ans de suite, ouais, ça voudrait dire qu'ils évitent les blessures, etc., que tout va dans leur sens. C'est toujours très compliqué à pronostiquer, donc autant prendre des risques et aller chercher le Super Bowl que personne ne veut.
Moi, je dis juste qu'on n'a pas vu de doublé depuis Tom Brady. On n'a pas vu une équipe gagner le Super Bowl dans son stade depuis Tom Brady. On a rarement vu un mec arriver dans une équipe et gagner le Super Bowl dans la foulée depuis Tom Brady. Donc, ça me suffit pour dire que mon Super Bowl, c'était donc Chiefs-Buccaneers et que les Buccaneers gagnent encore. Donc, tu as Bills-Packers. C'est pas mal, c'est joli aussi comme Super Bowl.
Ah, donc, tu as le même Super Bowl et le même vainqueur.
Toi, même Super Bowl, même vainqueur. C'est comme ça qu'on crée des vraies rivalités en plus.
Mais ce qui, ça, pour le coup, serait inédit. Parce que deux fois le même Super Bowl… avec deux vainqueurs, ça me paraît…
Ce serait top. Donc, Bills Packers, vibe old school pour deux belles franchises. Et donc, qui gagne les Bills? Ça y est, tu couronnes Josh Allen?
Allez,
tu l'as ton renouvellement?
Pour leur 5e Super Bowl, en l'hommage de Jim Kelly, victoire des Bills contre les Packers, sur une dernière passe où Stephon Diggs prend le meilleur sur Kevin King, qui évidemment aura trébuché juste avant, avec un appel de jeu cover zéro de son coordinateur défensif.
Allez, on va pas faire tout le playbook, Victor, parce qu'il faut que les émissions durent moins de 4 heures.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi, j'y crois. Et allez, on se hype. Moi, je hype les Bills et je les vois vaincus.
En un mot, sans explication, les trophées individuels, est-ce que tu as ça sous les yeux ou pas?
Les trophées individuels, oui.
Est-ce que tu peux me dire? Tu me donnes juste les noms, pas d'explication, et ensuite, on passe à la fiche de la semaine. MVP?
MVP, j'ai envie de te dire Patrick Mahomes.
Patrick Mahomes aussi. Coach?
Coach Sean McDermott.
Bill Belichick. Joueur offensif?
Joueur offensif, j'ai un doute sur qui j'ai mis là pour le coup.
J'ai Josh Allen, cadeau de consolation pour
ne pas avoir le MVP. Vas-y, je te suis.
Défenseur?
Aaron Donald.
Aaron Donald aussi. Rookie offensif, défensif?
Devonta Smith, évidemment.
Okay. Et?
Et défensif,
Grégory.
On va rester en NFCS, Micah Parsons.
Allez, Grégory Rousseau et Trevor Lawrence. Pour moi, comme back,
Dak Prescott.
On passe à la fiche de la semaine.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et pour la fiche de la semaine, on retrouve justement les Chiefs dont on a beaucoup parlé, finalistes du dernier Super Bowl, vainqueur de l'AFC en titre, une superbe affiche de l'AFC. Kansas City a reconstruit sa ligne offensive pendant l'intersaison. Là, c'est un gros test d'entrée face à Myles Garrett et Jadeveon Clowney. C'est clairement la principale intrigue de ce match. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que Patrick Mahomes va encore courir comme au Super Bowl, Victor?
Bah oui, c'est clairement comme tu dis. Enfin, il y a beaucoup de points d'interrogation sur la ligne de Kansas City, et il se coltine une des meilleures, peut-être la meilleure, on verra à la fin d'année, ligne défensive de la Ligue. Oui, va falloir contenir Myles Garrett, va falloir contenir Jadeveon Clowney.
Alors, il va falloir, mais est-ce qu'ils vont réussir? C'est ça ma question.
Moi, je pense que ça risque d'être compliqué. Il va falloir jouer très rapidement, avec des jeux très courts, et je pense que Kansas City a appris du Super Bowl. C'est-à-dire qu'ils sont morts avec leurs idées. Mais là, il y a un moment, pour revivre, il faut peut-être aussi changer de mindset. Et je les vois avoir des jeux très rapides, comme fait par exemple Pittsburgh avec Roethlisberger, et profiter de certains match-ups. Par exemple, Travis Kelce, je ne sais pas quel linebacker des Browns va le marquer, tu vois. Et du coup, j'ai envie de te dire, avantage à la ligne défensive de Cleveland, mais j'anticipe que le coaching de Kansas va s'adapter.
Alors moi, là où je pensais que tu allais aller, quand tu dis avantage à la ligne offensive, à la ligne défensive de Cleveland, c'est est-ce que par contre ils ont l'avantage sur la couverture aérienne, parce qu'il y a Josh Johnson et Troy Hill qui sont ajoutés en couverture aérienne, donc c'est un beau groupe sur le papier avec déjà Denzel Ward et des safety aussi de bon niveau. Donc est-ce qu'on est sur du test pour le secteur aérien des Browns aussi? Et même question, est-ce que ça peut tenir pour eux, parce que là il y a quand même des filles avec Tyreek Hill, avec un numéro 2 qui est pas très bien défini, mais Mecole Hardman, Byron Pringle, tout ça, il y a quand même du monde à contenir. Donc est-ce que le secteur aérien des Browns qui a été reconstruit peut tenir?
Alors je pense qu'il va tenir. Alors, tu n'es jamais à l'abri d'un Tyreek Hill qui te met 65 yards dans les dents. Je pense qu'il va tenir, mais encore une fois, moi, c'est vraiment la couverture aérienne, mais des linebackers qui me fait peur. Parce que s'il y a Travis Kelce qui s'amuse, ça peut faire très mal. Et on connaît la capacité de Kansas City à créer des petits jeux un peu différents. Un Clyde Edwards-Helaire peut naviguer dans la défense pour tenter de disperser un peu tout ça. Donc, je pense que Kansas City va jouer un peu contre nature. En tout cas, j'anticipe qu'il joue un peu contre nature, peut-être moins spectaculaire que ce qu'on a vu d'habitude, mais plus sur l'efficacité et des petits moyens gains, parce que je pense que c'est comme ça qu'ils feront la différence. Parce qu'en effet, tu l'as dit, si on parle de la couverture aérienne profonde, les Browns sont quand même largement progressé cette année.
Alors, pour faire clair, parce que tu me dis, les Browns vont réussir à mettre de la pression, mais Kansas City va réussir à jouer court. Donc, c'est l'avantage à qui sur ce match-up? L'attaque des Chiefs ou la défense des Browns? Est-ce qu'ils vont marquer plus de 25 points?
L'attaque des Chiefs, parce que je crois en Andy Reid et que je pense qu'il va trouver des solutions pour maximiser les bons match-ups. Et même si sur le papier, c'est équilibré, je pense que Kansas City aura l'avantage.
Alors, est-ce que les Browns, eux, du coup, si tu me dis que Kansas City va marquer plus de 25 points, est-ce que les Browns peuvent tenir le rythme avec un Baker Mayfield qui sort d'une saison à 26 touchdowns, 8 interceptions, un gros groupe de cibles, Odell Beckham est de retour, on rappelle, hein, pour cette saison, Jarvis Landry, Rashard Higgins, Donovan Peoples-Jones qui a aussi montré des choses, et puis surtout Nick Chubb au sol, parce que on dit Kansas City va marquer 25 points, mais est-ce que sinon t'essayes pas de contrôler l'horloge et de mettre du Nick Chubb à toutes les sauces, et puis est-ce que ça marche, ça, de contrôler l'horloge contre Kansas City?
Alors, contrôler l'horloge, j'ai envie de dire, c'est toujours compliqué parce que, bon, Kansas City, après, en une minute et demie, ils peuvent être mettre un touchdown. Mais en effet, si on rentre dans un match un peu plus tactique, comme je l'ai indiqué sur la première partie, je suis d'accord avec toi, la clé pour Cleveland, ça va être le jeu de course. Ça va être évidemment Nick Chubb, ça va être aussi Kareem Hunt, hein, parce que n'oublions pas que c'est quand même un duo vraiment létal pour le coup. Et c'est une ligne offensive qui est particulièrement efficace contre run. Pour le run, elle est efficace dans les deux secteurs, mais quand il s'agit de la course particulièrement. Et au niveau de Kansas City, mine de rien, la ligne, elle a un peu bougé. Chris Jones, maintenant, il est defensive end. Jaron Reed est arrivé pour jouer defensive tackle. Enfin, donc, il y a quand même des changements. Donc, sur une première semaine, peut-être que s'il y a un peu de désorganisation sur la ligne de Kansas City et que ça coulisse pas bien, Cleveland peut en profiter. Donc ça va vraiment être, en effet, un match-up très important.
Par contre, c'est un vrai truc à surveiller quand même. Chris Jones, defensive end, ça peut par contre être explosif et très dangereux pour Cleveland, parce qu'il a montré qu'il était plutôt à l'aise, hein, en pré-saison dans ce rôle-là. Donc oui. vraiment un truc à voir. Mais après, si ça s'emballe, est-ce que tu penses qu'ils peuvent suivre?
Oui.
Est-ce que tu vois, on peut avoir un Mayfield qui balance dans tous les sens, je sais pas, 3-4 touchdowns?
Oui, il y a un an, je t'aurais dit non, mais aujourd'hui, je te dis oui, avec ce qu'on a vu la saison dernière. Il est en progression, il a retrouvé le mojo de sa saison rookie. Ça, c'est pas aujourd'hui le point fort de son attaque, mais c'est un super game manager. Et cette année, de toute façon, si Cleveland veut aller loin, il va falloir qu'il passe ce palier où, en effet, il porte son équipe, mais j'y crois, oui.
D'accord. Bon, donc ça va donner un plutôt beau match. Si je comprends bien, scénario pronostic, tu vois ça tourner comment?
Mais moi, je pense qu'il va y avoir des points. Il va y avoir des points, j'y crois. Et j'ai donné un léger avantage à Kansas City pour le coaching. Et parce que, mine de rien, ils sont à domicile. que le public est de retour et que les équipes qui se jouent à l'extérieur n'ont plus cette habitude d'être dérangées dans leurs appels de jeu par le public, etc. Et je pense que ça... Alors, je projette, hein, mais je pense que ça va avoir un impact sur la semaine 1 et on sait que Kansas City, c'est bruyant. C'est donc, je donne... voilà. Le public offre la victoire à Kansas City.
Alors, moi, j'ai les arguments de psychologie de comptoir aussi, mais ils ont quand même pris une sacrée rouste au Super Bowl. Ils jouent à domicile pour ouvrir la saison. Je les vois quand même mal commencer en marchant à domicile, comme tu disais, avec le public qui va à nouveau faire du bruit, la motivation. Et je pense quand même qu'offensivement, ils gardent une petite tête d'avance, même si cette équipe de Cleveland est très forte, sur le papier, en tout cas. Donc, voilà. Après, ce serait un super coup de frapper d'entrée à Kansas City pour Cleveland.
Ils n'ont rien à perdre.
Voilà. Et alors, ils n'ont rien à perdre, mais par contre, ça placerait les attentes très haut. C'est-à-dire que s'ils tapent les Chiefs en première semaine, on va vite les attentes. Sûr. Ça va vite faire monter la hype.
À l'inverse, s'ils perdent, bon, bah, t'as perdu à Kansas City. Okay.
Voilà, c'est pas déshonorant. Mais en tout cas, ce sera un très bon test pour une équipe de Cleveland qu'on attend quand même beaucoup cette saison. Mais voilà, pour l'instant, on les donne quand même tous les deux perdants. Et le reste des pronostics, eh ben, c'est maintenant.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. And we're gonna work on three. One, two, three, work!
Le retour des pronostics de la saison, c'est parti avec la semaine 1, 16 matchs au programme puisque évidemment les 32 équipes sont sur le terrain. Vous nous écoutez peut-être un vendredi, donc vous connaissez peut-être le résultat de ce match, mais comme d'habitude quand même dans l'émission du jeudi, on vous parle du Thursday Night Football et là évidemment c'est le tout premier match de la saison. Les Buccaneers reçoivent les Cowboys 2h20 du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, super match d'ouverture. A priori, on l'a quand même dit quand on parlait des previews, les Buccaneers sont quand même bien plus complets, notamment en défense. Ça va être difficile pour Dallas de stopper Tom Brady et tout ce qui est en face. Donc, pronostic Buccaneers, pour moi, me semble évident. Est-ce que tu joues la surprise pour ton premier pronostic officiel dans l'équipe des pronostiqueurs du podcast?
Non. Je joue les Buccaneers aussi, d'autant plus que le Covid s'est mêlé de ça. Parce que moi, j'avais un peu mis en lumière la ligne offensive de Dallas. Et là, Lael Collins s'est blessé et Zach Martin, grande star de la ligne,
Covid,
donc il ne jouera pas la première semaine. Donc, je pense que ça va être trop.
Allez, on passe sur la série des matchs de 19h. Ce sera donc le dimanche 12 septembre. Et je vous rappelle évidemment qu'à 18h, il y aura le fauteuil. Donc, dimanche 12 septembre, on commence avec les Falcons qui reçoivent les Eagles. Et là, Victor, évidemment, alors tu aimes bien les Eagles, mais tu es introduit au jeu des pronostics du podcast TDA. À ces matchs tout pourris où on ne sait pas quelle équipe est la plus pourrie et surtout en début de saison, c'est très très dur à pronostiquer. Je ne sais pas si est-ce que tu vas adopter la technique Grégory Richard qui consiste à ne jamais pronostiquer sa propre équipe pour ne jamais lui porter la guigne.
Est-ce que ça ne serait pas un bel hommage de prendre la technique Grégory Richard lors d'un Eagles Falcons?
Ouais, contre les Falcons en plus.
Donc oui, je pronostique les Falcons et en fait pourquoi c'est que. Je pense que la défense des Falcons est cataclysmique et va leur coûter une tonne de matchs. Mais on est en première semaine. L'attaque des Eagles, c'est un nouveau quarterback, c'est un nouveau système, un nouveau coach, des nouveaux receveurs, etc. Il va falloir du temps pour mettre tout ça en place. Donc, je ne pense pas qu'ils vont casser la défense des Falcons. À l'inverse, Matt Ryan, moi, c'est quand même quelqu'un que j'admire énormément. Il a des cibles, il y a Kyle Pitts, il y a Calvin Ridley, etc. Je pense qu'ils vont faire le boulot et autant tu jouerais en fin de saison, bon, mais en début de saison, je pense que les Falcons ont plus de certitude.
Et bah, moi, j'étais parti sur Eagles à la base, mais je me demande pourquoi et donc je vais partir sur Falcons parce que pour toutes les raisons que tu viens de citer, ouais, ce sera plus efficace et puis oui, il y a Calpitz, il y a plein de... Au moins, ils marqueront des points. Donc, Falcons pour moi aussi, allez. Bills, Steelers, 19h, c'est une belle affiche. Ça aurait pu être notre affiche de la semaine, ça aurait pas été... ça aurait pas été outrageux. Ligne des Steelers, donc on l'a dit, qui va être testée de suite parce que c'était la meilleure ligne l'an dernier avec seulement 14 sacs autorisés, mais qui a été complètement chamboulée pendant l'intersaison. Et bah du coup, toi qui aimes bien les Bills, dont on a parlé longuement, c'est l'occasion aussi pour leur jeune pass rusher dont on a parlé de se mettre un peu en avant, Greg Rousseau et Jay Penessa et celui que j'oublie, mais il doit y en avoir un troisième. Si je dis pas de bêtises, non, il y a pas un troisième jeune là-dedans.
Un troisième jeune dans les defensive end.
Ouais, non, il n'y avait pas un troisième pass rusher que j'oublie chez les Bills. Bon, c'est pas grave.
Il y a Jerry Hughes, mais c'est pas exactement un jeune. Ah, il y a Basham.
Voilà.
Carlos Basham Jr.
Voilà, c'était ça. Je me disais bien qu'il y avait un deuxième rookie là-dedans qui traînait. Bon, les Bills, du coup, pour moi, au niveau du prono, et je pense que vu les louanges que tu as chantées sur Buffalo, tu vas tu les vois commencer par une victoire si tu les vois aller au Super Bowl.
Oui, ça sera pas facile parce que vaincre les Steelers de Mike Tomlin, c'est jamais facile. Mais là encore, oui, je pense que continuité, c'est une équipe qui a des certitudes, des joueurs qui savent jouer ensemble. Donc, pas de raison de ne pas les pronostiquer. En plus, c'est à Buffalo. Donc.
Allez, let's go Buffalo pour celui-là. Panthers, Jets, toujours à 19h. L'histoire, évidemment, de ce match, c'est le retour de Sam Darnold contre les Jets pour son premier match avec les Panthers. Je ne sais pas si ça va se résumer à ça quand même, mais bah, on a deux nouveaux quarterbacks dans leur équipe. Quoi. On a Zach Wilson, le rookie, et Sam Darnold pour les Panthers. Après, les deux ne sont pas super entourés. Alors si, non, je dis une bêtise, parce qu'il y a quand même Christian McCaffrey, DJ Moore, Robbie Anderson. Est-ce que du coup, ça leur donne un avantage décisif? Ce sera presque point fort contre point fort, parce que du coup, la défense des Jets est leur point fort aussi.
Ce serait tellement Jets de perdre contre Sam Darnold en première semaine. Déjà, rien que ça, tu vois, historiquement, ce serait tellement Jets. Non, je pense que quand même, la blessure de Carl Lawson a fait mal à cette défense des Jets, qui en effet prometteuse, mais là, du coup, tu perds déjà... de tes tout meilleurs éléments avant le début de la saison. Il y a une attaque, je ne suis pas confiant du tout. À l'inverse, les Panthers, il faut se rappeler que la draft, non pas celle-là, mais celle d'avant, ils avaient tout investi en défense. Donc, tous les rookies deviennent des sophomores, donc ont engrangé. Donc, j'attends de Derrick Brown, etc., des grosses performances, plus en plus Jesse Horn qui est arrivé en cornerback. Je pense que les Panthers ont trop d'armes pour perdre contre les Jets.
Pareillement, je pense qu'en effet, ils sont quand même beaucoup plus complets. Après, on verra le niveau des quarterbacks. Ce sera quand même une grosse intrigue, mais Panthers pour tout le monde. Bengals, Vikings, celui-là, écoute, on va regarder si la ligne des Vikings défensive, on parlait de la reconstruction de leur défense, s'ils mettent pas de pression là, c'est inquiétant pour commencer.
Oui.
Parce qu'on peut pas dire que Cincinnati est grandement investi sur la protection de Joe Burrow. Donc, a priori, si les Vikings mettent pas de pression là, ils en mettront jamais, non?
C'est clair. Non, mais c'est clair. Joe Burrow, le pauvre. Franchement, même s'ils font 0-17, j'en sais rien, mais j'espère de tout cœur qu'il va pas se reblesser parce qu'avec une ligne comme ça serait terrible pour le jeune homme. Voilà, il y a Jamar Chase a fait une pré-saison catastrophique. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont en manque de repères. La défense est chamboulée. De l'autre côté, il y a quand même Dalvin Cook. Je pense, par définition, c'est quand même une grosse arme. Kirk Cousins, il fera le boulot. Il y a Justin Jefferson, Tillin. Donc, en attaque, il y a de quoi faire. Et tu l'as dit, la défense, c'est l'occasion en or de montrer que la saison dernière est derrière eux et qu'ils vont pouvoir faire la différence. Donc, non, pas de raison de ne pas mettre les Vikings.
Et puis, mine de rien, il y a des bons éléments hein, avec Daniel Hunter, Everson Griffin qui revient, Anthony Barr. Enfin bon, il y a quand même…
Harrison Smith, voilà, il y a du monde.
Il y a quand même du matos, ils peuvent se reprendre. Donc, Vikings pour tout le monde. Lions, 49ers, toujours à 19h. Là, c'est pareil, hein. On est sur plutôt de l'échauffement pour Cador face à équipe en galère. Est-ce qu'on est sur du scénario de folie, les Lions que tout le monde enterrait, finalement, pendant l'intersaison, on aurait trouvé un truc avec ce coach un peu gueulard sympa, qui est Dan Campbell, et puis il tape une surprise comme ça dès le début de l'année en surprenant des Niners qui essayent de faire rentrer Trey Lance au milieu des actions, mais que ça marche pas. D'ailleurs, je dis ça, mais Trey Lance, c'est incertain, il est touché au pouce. Donc, ça ressemble à un rouleau compresseur quand même, San Francisco, là, non?
Ah bah, à moins qu'il remplace tous ses défenseurs par des vrais lions. Apparemment, c'est une idée qu'il avait à un moment.
Cool.
Là, je vois pas, non. Je pense que ils auront même pas besoin de lancer la balle. Hein. Il y a juste à faire courir les joueurs, ça suffira. Non. Je vois aucun monde où les Lions peuvent les embêter en défense comme en attaque. Donc, pour moi, ça va être une promenade de santé.
Faut faire attention à ce genre de phrase. Quand on dit pour moi, ça va être une promenade de santé, fais attention, tu pourras en réentendre parler.
Je prends des risques, c'est pas grave, j'assume.
Donc, San Francisco, Texans, Jaguars, là encore, on est sur du très bas de tableau. Trevor Lawrence pouvait pas avoir plus simple pour commencer. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. T'es rookie, numéro un de la draft, t'es très attendu. T'arrives contre une des pires défenses et une des pires attaques de la ligue à la fois. Tyrod Taylor est donc le titulaire de Houston alors que Deshaun Watson est en bonne santé. Voilà. Alors, le truc, c'est que c'est facile sur le papier, mais en même temps, les Jaguars sont pas forts du tout non plus. Donc, ça peut être un match serré, en fait.
Oui, je pense qu'il va être plus serré que certains l'attendent, parce que si les Texans sont incontestablement le pire effectif de la Ligue, les Jaguars sont pas tellement au-dessus, et on l'a vu dans votre power ranking d'ailleurs, il doit y avoir quoi, trois places d'écart.
Oui, c'est proche.
Donc, bon, je pense que la hype Trevor Lawrence, et mine de rien, il a quand même des gens en attaque qui peuvent être intéressants, les Lavis Cachenot, les DJ Shark, etc. Donc, je donne un petit avantage aux Jaguars, mais je tomberai pas de ma chaise de voir les Texans, je sais pas moi, avec par exemple un Mark Ingram, Philippe Lindsay en feu, avec vraiment un jeu de course qui marche et certains playmakers défensifs comme Zach Cunningham qui font les actions, ça peut tourner, c'est un match ouvert.
Ouais, c'est un match ouvert clairement. Et puis après, tu vois, en plus les Texans ont beaucoup de vétérans qu'ils ont récupérés pour faire un peu le nombre et tout, mais du coup c'est des mecs qui savent jouer quand même et qui seront là la première semaine, donc qui peuvent embêter largement des Jaguars où il y a pas mal de jeunes.
Et c'est à Houston.
Donc, je vais dire Jacksonville parce que voilà, sur les grandes forces en présence, mais attention, celui-là il peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Donc du coup, t'as dit les Jaguars aussi?
Oui.
Colts, Seahawks, Carson Wentz semble être bien parti pour être là. Quentin Nelson semble aussi être parti pour être là. Ça va être dur de suivre quand même le rythme des Seahawks parce qu'il y a moins d'armes du côté d'Indianapolis, notamment chez les receveurs. Et un Carson Wentz donc, qui revient. Là, on va peut-être pas aller dans les conjectures. Hein. On ne sait pas du tout en fait quel niveau il a, non, au moment où on se parle.
On n'en sait rien et on ne sait pas. Il a dit qu'il voulait être sur le terrain, même s'il était blessé. Donc oui, il sera sur le terrain. Après, est-ce qu'il sera à 100%? La base du jeu de Carson Wentz, c'est ce qu'a fait son excellente saison 2017, c'était sa mobilité. Et mobilité qu'il a perdue et où il a commencé à encaisser des valises de sacs et à faire des valises de fumble. Donc, s'il joue à 70% sans mobilité, c'est pas Drew Brees. Hein. Il va pas manipuler la poche comme ça. Donc, je pense quand même que ça va faire court. Déjà, les codes, Kelly, Nelson, Vance sont loupés pour Covid, pour blessure, etc., des parties d'intersaison. Non, pour affronter une machine comme les Seahawks de Pete Carroll, c'est trop court.
Après, moi, je peux imaginer un scénario où Indianapolis prend le dessus dans l'étranger, c'est-à-dire que leur ligne offensive sort un énorme match et donc derrière, ça court. Leur ligne défensive avec Buckner et tout ça écrase un peu Seattle, fait déjouer Wilson et ses receveurs. Sur un premier match, je peux imaginer ça, mais je vais quand même aller sur les Seahawks parce que c'est plus dynamique. Est-ce que tu vas sur les Seahawks aussi?
Oui, je vais sur les Seahawks. Je te rejoins, c'est pas un no-brainer. Mais je pense qu'il faut prendre des axes. Et en effet, aujourd'hui, c'est eux qui sont favoris.
Titans Cardinals, bon test pour la défense renouvelée des Titans quand même. C'est un match où on a des certitudes sur les attaques, mais moins sur les défenses, non, j'ai l'impression.
C'est ça. On peut tout à fait dire comme ça. Et pour le coup, je pense que l'attaque des Titans, c'est vraiment trop fort, si on veut être un peu caricatural, pour cette défense des Cardinals. On a vu que, il y a J.J. Watt, c'est beau, mais depuis ses blessures, c'est plus le triple défenseur de l'année qu'on a connu. Cornerback pose toujours question. Il y a Buda Baker, c'est très bien. Mais bon, il y a des playmakers, certes. Mais si on regarde les effectifs au global, je ne vois pas comment tu réussis à limiter Edgy Brown, Julio Jones, compagnie. Même si je crois qu'Edgy Brown a loupé le dernier entraînement, donc ça sera à surveiller. Mais globalement, ça me paraît trop fort.
C'est pas facile à pronostiquer ce match. Hein. Plus je regarde, plus je doute.
Parce que de l'autre côté, ça risque de faire pareil. Ça risque de faire pareil. Je pense que des André Hopkins, des Kyler Murray, etc., face à une défense qui est encore en recherche de repères,
il y a moins de playmakers du côté de Tennessee. Hein.
Normalement, il y aura des points. Ça, on peut pronostiquer peut-être qu'il y aura beaucoup de points dans ce match.
Allez, tu pars sur qui?
Titans
également. Washington Chargers. Est-ce qu'on est sûr de la couverture aérienne des Chargers? Michael Davis, Chris Harris, qui est plutôt jeune. J'ai un doute là-dessus.
Moi, j'ai pas qu'un seul doute sur les Chargers.
Tu vois, Derwin James revient d'une énième blessure.
Ouais, mais tu sais, tu les avais en playoff et moi non au début. Et c'est parce que moi, la ligne, j'attends de voir parce que, OK, il y a Lindsay, il y a Slater, mais déjà, Slater à gauche, on verra ce que ça donne. Boulaga et compagnie. Je veux dire, il y a un monde où la ligne de Washington empêche Justin Herbert de faire la moindre chose dans ce match.
Aussi,
parce que Boulaga, je suis pas convaincu, Abouchi non plus, Failer non plus. Et Slater à gauche, on verra. J'adore Slater, mais à gauche, ça demande à voir. Donc, à mon avis, même si Herbert, j'adore, spectaculaire, tout ce que tu veux, il va se faire harasser tout le match par cette ligne de Washington. Et du coup, je pense que ça va être trop pour eux. Et qu'à l'inverse, l'attaque de Washington fera suffisamment pour être devant.
Donc, Washington pour toi. Washington pour moi également. J'ai dit que c'était une de mes hypes de la saison. Donc, je suis. Et en effet, ils ont de quoi faire du mal à Justin Herbert. Même si je le vois se reprendre plus tard dans la saison, là, ça commence très difficile. Chiefs Browns à 22h25. On a tous les deux donné les Chiefs. Pardon, c'est dur à dire. Toujours à 22h25. Patriots Dolphins. Tiens, on les donnait un petit peu à la bataille pour les playoffs. Et ben, ils se rendent compte tout de suite. Moi, j'aurais pas été timide. Tu vois, c'était presque l'affiche de la semaine. Parce que t'as deux des quarterbacks les plus intéressants ou intrigants de l'année, en tout cas. Avec Tua Tagovailoa, Mac Jones, on l'a évoqué. Deux bonnes défenses. Quand même, bien coaché. C'est des coachs défensifs, c'est des coachs qui se connaissent. Brian Flores vient de New England. Il manque Stephon Gilmore pour les Patriots. Jesse Jackson est propulsé cornerback, numéro 1. Mais je crois que, tu vois, par exemple, j'ai plus envie de regarder celui-là que le Browns Chiefs. Je suis plus intrigué par celui-là.
Je suis d'accord que c'est, de toute façon, et si je rajoute Bills Steelers, c'est le trio des matchs vraiment à voir dans cette première semaine.
C'est vrai.
Je suis assez d'accord avec ça.
Et alors, moi, j'ai dit que je voyais les Patriots au-dessus des Dolphins sur la saison, donc je donne les Patriots. Je pense que ça peut commencer plus fort. Mac Jones a l'air d'être chaud bouillant en termes de confiance. Il a appris le playbook à Cam Newton. C'est limite s'il apprenait pas la défense à Bill Belichick et des équations à Stephen Hawking cette semaine, vu les déclarations. Donc, donc moi, je suis chaud là sur Mac Jones. Visiblement, il est en feu. Et même s'il manque Stephon Gilmore, le retour de Dont Hightower et des choses comme ça, je pense que la défense des Patriots va avoir aussi à cœur de sortir fort. Donc, Patriots pour moi.
Ah ouais, mais le deuxième cornerback, c'est Jalen Mills. Et alors, ouais. Je connais bien, fais-moi confiance que c'est
la sécurité sociale. Bill Belichick a mis la main sur son épaule, c'est réglé.
Non, en vrai, ça va être un match très, très incertain. Moi, je donne les Dolphins parce que je pense que la défense des Dolphins va prendre le pas sur l'attaque des Patriots, tout simplement parce que, bon, t'as deux nouveaux tight ends, t'as un nouveau quarterback, t'as des nouveaux receveurs. Faut un peu de temps pour que ça se mette en place. Et j'ai du mal à croire, même si Belichick est le plus grand coach tous les temps, j'ai du mal à croire que ça clique dès la première semaine. Mmh. Il peut très bien me faire mentir. Hein. Là encore, on est sur un match, c'est du 50-50. Mais du coup, je pense que la défense des Dolphins en fera suffisamment pour vaincre Belichick. Et puis, historiquement, les Patriots perdent toujours un match contre les Dolphins quasiment tous les ans. Là, c'est leur défaite annuelle. Et ça ne leur empêchera pas de faire une belle saison.
Saints Packers, c'est toujours à 22h25, c'est le début de l'ère Jameis Winston à New Orleans. Il y a un Zadarius Smith un peu incertain en face, au niveau des blessures, il revient, mais est-ce qu'il sera revenu à temps? Ce n'est pas encore sûr. Est-ce que Jameis Winston peut créer la surprise pour sa première, lui qui a intronisé, alors j'ai dit New Orleans Packers, mais ça ne se joue pas à New Orleans, puisque à cause de l'ouragan, les Saints sont en déplacement, et donc ça va se jouer à Jacksonville, ouais. Ça va se jouer à Jacksonville. Donc bon, c'est pas à des conditions idéales. J'ai du mal à voir une surprise, mais ils peuvent les bousculer, moi je pense. Donc je vais donner les Packers, mais je pense que les Saints peuvent les bousculer sur le premier match de Jameis Winston. Il va être appliqué, donc Packers, mais attention.
Même raisonnement que toi. Je veux dire Packers, mais attention, et surtout là encore dans les équipes qui va être sympa de voir jouer, les Saints post-Drew Brees, ça va être une vraie énigme, donc je suis assez d'accord.
Giants, Broncos, on a deux défenses à bon potentiel et on a deux quarterbacks dans lesquels on ne croit plus beaucoup, j'ai l'impression, Daniel Jones d'un côté, Teddy Bridgewater de l'autre. Ça aurait été un Daniel Jones Drew Lock, ça aurait été incroyable. J'arrive même pas à savoir quel est le meilleur quarterback sur le terrain. Là. Je ne sais pas, c'est Jones ou c'est Bridgewater? C'est Bridgewater, non?
Je pense que c'est Bridgewater. Je crois que dans Power Ranking, ils se suivent dans le Power Ranking quarterback que j'ai fait.
Donc, c'est quoi qui fait la différence dans ce match? C'est la défense?
C'est l'attaque des Broncos hors quarterback.
Ouais.
Parce qu'il y a quand même du monde. Il y a quand même les Jeudy, les Sutton. Il y a une belle ligne. Il y a du jeu de course. Même si ça va être un peu force contre force et faiblesse contre faiblesse, je trouve, parce que la défense des Broncos ne me rassure pas, l'attaque des Giants ne me rassure pas. Et de l'autre côté, la défense des Giants, j'aime bien, et l'attaque des Broncos, j'aime bien. Donc, ça va être force contre force, faiblesse contre faiblesse. Mais je pense qu'à ce petit jeu-là, je vois les Broncos s'emporter. Mais là encore, on est sur un pronostic très compliqué.
Ah ouais, je te trouve un peu dur avec la défense des Broncos. C'est pas une des top défenses, mais c'est une défense qui a du potentiel et il y a Von Miller qui est de retour. Pour moi, ça va suffire largement contre Daniel Jones, donc c'est pour ça que je donne les Broncos aussi.
Bah, contre Daniel Jones, surtout contre sa ligne, parce que moi, oui, on me dit Barclay est de retour, il y a Kenny Golladay, il y a Kadarius Toney. Super, ah bah ça... hein. Alors Barclay, il est en cristal déjà.
Ah bah ça, l'éternel débat, hein. Tu peux drafter un coureur haut s'il n'y a pas de ligne devant.
Non mais, et donc... Le coureur est en cristal et en plus il n'y a pas de ligne. Donc
Broncos pour tous les deux alors.
Ouais.
Le premier match du Sunday Night Football dans la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin, les Rams contre les Bears. La Rams hype à l'épreuve de la défense des Bears, qui est plus forcément si terrifiante d'ailleurs, je trouve. Alors attends, j'ai commencé par le mauvais truc. Est-ce qu'on ne peut pas résumer le pronostic à Andy Dalton va jouer contre la défense des Rams? Voilà.
Exactement. Merci, au revoir.
Voilà. Bon, donc Rams pour tous les deux. On a déjà suffisamment parlé de Los Angeles. Le Monday Night Football, donc dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, les Raiders qui reçoivent les Ravens, ce sera le premier match. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais les Rams, ce sera leur premier match en public dans le stade de Los Angeles. Et comme pour les Raiders, ce sera le premier match en public dans le stade de Las Vegas. Les deux équipes ont joué dans un stade tout neuf, mais tout vide l'an dernier. Donc là, ils reçoivent le public. Je suis un petit peu inquiet pour Baltimore sur les coureurs. Et je l'ai dit, je suis pas ultra fan des capacités de lanceur de Lamar Jackson. Mais là, je pense quand même qu'ils peuvent détruire la ligne offensive des Ravens, non?
Les Ravens détruisent la ligne offensive des Riders.
Oui, pardon, c'est ce que tu m'as compris.
Oui, oui, c'est l'enjeu. C'est-à-dire que les Riders, ils ont une toute nouvelle ligne offensive avec Colton Miller qui est maintenant à gauche. C'est qui? C'est André James et Denzel Good, je pense, à l'intérieur. Donc, bon, on va voir. Même si je pense qu'elle sera meilleure qu'attendue, cette ligne, il va y avoir là encore un temps d'adaptation. Et bon, on sait à quel point, historiquement, les Ravens en pass rush, tu peux mettre Jean-Pierre n'importe qui en pass rusher, il fera quand même ses 5 sacs et ses 12 pressions. Mmh. Donc, et en plus, là, ils n'ont pas n'importe qui. Donc, non, globalement, je pense que ça va se jouer là-dessus. Ça va être compliqué comme match, peut-être plus que des gens n'imaginent, parce que je pense que la défense des Riders n'est pas incroyable, mais elle n'est peut-être pas aussi mauvaise que certains le pensent.
Ah ouais? Oh. Ben, je pense qu'ils vont prendre cher aussi.
Mais tu sais, les KJ Wright, les Trevon Murray, les Kazee Hayward, ce n'est pas extraordinaire, mais ça sera pas. Ça sera pas top 15, mais ça sera pas bottom 10.
Ok,
moi.
Bon.
Donc, je pense que ça va être compliqué, mais voilà, à force, les Ravens font la différence.
Allez, Ravens pour tout le monde. Voilà pour les premiers pronostics de la saison. On passe aux cotes. Les meilleures cotes chez Unibet, notre partenaire tous les jeudis cette saison, et qu'on remercie de nous soutenir. Trois cotes qui nous plaisent, une par intervenant, une cote bonus et puis un petit YOLO. Victor, est-ce que tu as une cote sous la main ou pas? Ou est-ce que je te laisse chercher le temps que j'annonce la mienne?
Alors, j'ai un pronostic sous la main, mais je n'ai pas la cote correspondante.
Alors, je te laisse. Alors, dis-moi, quelle équipe t'intéresse?
Ben, moi, c'est Washington.
Ok, Washington est à 1,77 contre les Chargers, ce qui est pas mal du tout en effet.
Ouais, pour un premier match, sachant que voilà, il y a beaucoup d'incertitudes sur le premier match, du coup forcément les cotes sont basses en général, et je pense que voilà, la hype Herbert fait que ça monte un peu au niveau des médias américains sur les Chargers, mais je pense qu'ils risquent de se prendre une douche froide contre Washington. Et du coup, ça me paraît intéressant.
Alors, moi, je vais te dire, donc, je suis totalement d'accord avec toi, parce que 1,77 pour Washington, alors qu'il y a quand même une très, très forte défense contre Justin Herbert, ça me va. La mienne, ce sera les Vikings, qui sont à 2,14. Les Vikings, pardon. Alors, les Vikings, c'était la troisième, j'ai pris de l'avance. Les Vikings sont à 1,52 contre les Bengals. Mais du coup, pour une équipe qui est quand même relativement très favorite, je trouve qu'un 52, ça se met bien dans un petit combiné. Et donc, celle qui était la mienne, parce que les Vikings, c'était la cote bonus, c'est les Cardinals contre les Titans. Alors, on a dit que c'était un peu un match l'un ou l'autre. Mais les Cardinals sont à 2,14. Donc, sur un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre, Écoute, ça ne me paraît pas totalement délirant. Donc, on se retrouve avec Cardinals à 2,14, Washington à 1,77, Vikings à 1,52. Et si vous voulez mettre ça dans un combiné, ça fait 5 euros misés, 28,79 euros de gain potentiel. Est-ce que tu veux bien tenter un petit YOLO? Parce que ça m'avait manqué les YOLO l'année dernière. Je vais te dire, je vais remettre, regarde, je vais te montrer comment on fait un petit YOLO parce que tu es nouveau.
Tu prends les pronostics de Lucas, tu arrives à faire un YOLO.
Ah, j'ai pas vu encore celui de Lucas, mais je vais te donner. Donc, je vais garder les Cardinals, c'est à 2,14. Sais-tu que les Steelers, quand même, sont pas très respectés? Ils sont à 2,88. Les Bills sont à 1,31. Donc, il y a gros, gros respect pour les Bills. Je vais mettre les Steelers à 2,88. Je crois qu'il y a une belle cote. Alors, tu vois, c'est pas un YOLO de fou furieux. Je vais pas mettre les Lions, tu vois, par exemple. Je suis pas fou à ce point-là. Les Browns, ça peut se jouer à 2,68 contre les Chiefs. Mais les Dolphins, dis-toi que les Dolphins sont outsiders et plutôt assez largement, en fait. Chez Unibet, ils sont à 2,26 alors que les Pats sont à 1,50. Je trouvais ça un peu étonnant. Mais donc, ça met, du coup, les Dolphins dans mon YOLO. Les Giants sont à 2,16. Je sais pas, est-ce que c'est un peu audacieux?
Eagles sont à combien?
Les Eagles, c'est vrai. 2,20 pour les Eagles. Ça se tente. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On va être sur du YOLO où là, on sait que vous avez 99% de chances de perdre, hein, sur un YOLO comme ça. Donc, mettez juste un petit euro. Et ça fait... Alors, Cardinals 2,14, Steelers 2,88, Dolphins 2,26, Giants 2,16 et Eagles 2,20. 1 euro misé, 69,45 euros de gain potentiel. Voilà. Bon, là, c'est le truc, vous dites, je prends pas un café aujourd'hui et je mets ça, et voilà. Et on rappelle évidemment, jouer de manière raisonnable pour vous faire plaisir. On passe aux questions des auditeurs. Ça reste de loin mon jingle préféré, celui-là.
Ah évidemment. Oui, complètement.
Voilà. Bon, après, ça a été le plus simple à monter, hein, on va pas dire. Je sais pas si... Non, la SACEM peut pas nous ennuyer pour celui-là. Je crois que c'est que France 3 qui peut nous appeler. Les questions des auditeurs. Uncle Drew, pour commencer, quelle franchise vous associez à... Donc, je te donne un terme et tu me dis direct ce qui te passe par la tête. La win. Patriots.
Steelers.
La lose. Putain, ça reste Browns. C'est le premier qui me vient.
Lions, parce qu'ils sont pas en playoff depuis 25 ans.
L'attaque. Chiefs.
Oui, aujourd'hui, Kansas City. Oui.
La défense.
Rams, parce que Donald Ramsey.
Ah, tu vois, moi, je pense Steelers. C'est dans mon cerveau. Au beau jeu.
Beau jeu. Bah, Kansas City.
Ouais.
Pour un amateur, c'est certainement ce qu'il y a de plus rigolo à avoir joué.
C'est vrai. Et ce qu'est le foot US? Ah oui, quelle franchise représente mieux ce qu'est le football américain? D'accord, c'est la question.
Ça dépend si on parle du jeu ou quoi, mais si on parle de dynastie, surtout au niveau des US, je pense que ça serait Dallas Cowboys.
Ouais, moi, je sais pas pourquoi je pense aux Steelers pour ça aussi.
Oui, Steelers des années 70, ça a aussi beaucoup marqué. les Broncos de Elway.
Est-ce que du coup, les Steelers des années 70 et le dopage, c'est vraiment ce qu'est le foot US? Parce que...
Les commotions cérébrales, le dopage et les gros contacts, oui,
c'est ça. On rappelle que la plupart de leurs joueurs sont quand même morts dans des conditions assez.
Ouais, enfin, la plupart des joueurs de l'époque sont morts dans des conditions. Si c'était que les Steelers, ça se saurait.
C'est vrai. Il y a The Manon qui demande salut la Dream Team, quel quarterback arrivé dans la ligue après Brady va partir en retraite avant lui? Alors, moi, sur le principe, je suis prêt à dire à peu près tous maintenant.
Même Zach Wilson, même Trevor Lawrence, il sera encore là.
Bah, t'imagines s'il y a une époque, on t'avait dit Andrew Luck qu'il partirait à la retraite avant Tom Brady.
Non, mais même tous, c'est incroyable. Enfin, des quarterbacks de plus de 50 ans, je veux dire.
Non, mais c'est vrai que là, du coup, l'enjeu.
De 40 ans, pardon.
L'enjeu, c'est de savoir qui. Enfin, tu vois, est-ce que Rodgers, par exemple, les plus proches dans les âges, va partir avant Brady?
Ouais. Bah, surtout que, bon, il n'est pas. Il n'est pas, comment dirais-je...
C'est pas exclu.
Ouais, il n'est pas foot US comme pourrait l'être Brady. Il a d'autres centres d'intérêt. Il va aller présenter Jeopardy.
C'est pas exclu, en effet. Elway 75, qu'est-ce que vous attendez le plus au poste de quarterback dans cette nouvelle saison? A, voir Stafford chez les Rams. B, voir les potentiels rebonds d'Arnold, Vance, Goff ou Winston. C, les nouveaux rookies Mac Jones, Fields et Lawrence. D, Watson jouer à nouveau. Bon, ça se joue entre...
Ouais, voilà, moi, ça se joue entre A et C. J'allais dire entre Stafford chez les Rams, et... mais les rookies, ouais, c'est plutôt cool quand même à chaque fois. Tiens, bah, y a Alex qui nous demande jusqu'à quel âge pensez-vous que Tom Brady pourra jouer. Je pense que là, on veut plus personne n'a la...
Non, non, on n'a plus de réponse. On n'a plus de réponse, on n'en sait rien.
Jogactu qui demande les coachs qui sont sur un siège éjectable. Allez, si tu... Pareil, on va rester sur le 1 nom.
Matt Nagy.
Ah ouais, Matt Nagy, c'est pas mal en effet sur le côté siège éjectable. Où sera la plus grosse ambiance chaque week-end ? Tu parlais de retour des fans.
Buffalo, Kansas.
Pour ceux qui découvrent, c'est vrai que c'est bien de rappeler. En effet, c'est vraiment les gros Cleveland hein, aussi. Ils sont assez.
Très intéressant de voir comment va être Las Vegas. Parce que Las Vegas en NHL, ça a très bien pris la greffe.
Okay.
Donc si ça prend au football américain, ça peut être pas mal aussi.
Qui a les meilleurs punchlines de la rédac TDA ?
Je sais pas trop.
Ouais. Sur Slack, c'est pas évident. Quel joueur rookie hors premier tour voyez-vous le mieux performer cette année ? Demande Alexis.
Rookie hors premier tour, attends, il faut que je reprenne la draft, là, c'est dur.
T'en as pas un qui te vient là, que t'aimes bien. Moi, j'ai mis une piécette sur Grégory Rousseau, défenseur de l'année. Donc,
Mais il est premier tour, hein, Grégory Rousseau.
Ah, il est fin de premier tour.
Fin de premier tour, je pense.
Je pensais qu'il était descendu plus bas.
Non, je pense qu'il est. Trevon Murig.
Ah oui.
Trevon Murig, qui est tout début de second tour aux Riders. Je pense que c'est le meilleur safety de loin et que Miami va regretter d'avoir pris Devon.
Premier quarterback, toujours question d'Alexis, premier quarterback titulaire à être mis sur le banc. Andy Dalton.
Oui, Andy Dalton, c'est le plus simple. Ouais.
Tiens, bah, il y avait un peu la même question pour faire le panorama. Tars Velder qui demandait parmi ces noms qui perdra son poste de quarterback en premier. Tyrod Taylor, la légende de l'exercice. Andy Dalton, pour qu'on soit sûr que Justin Fields soit l'avenir de la franchise. Jimmy Garoppolo, blessé après la semaine 4. Jameis Winston, Sean Payton n'a pas pu faire de miracle. Sam Darnold, on ne pourra pas tout mettre sur le dos d'Adam Gase. Teddy Bridgewater, pour être sûr que le poste de quarterback n'est pas mieux loti avec son remplaçant. Jalen Hurts, parce qu'il ne lance pas finalement. Ou Ben Roethlisberger, enfoui sous sa ligne offensive. Donc, bon, on est plutôt sur du Dalton, quoi.
Dalton, et après, c'est pas exclure si début cataclysmique de Jalen Hurts, le retour de Minshew Mania, j'espère pas, hein, mais c'est pas exclure.
C'est vrai. Michel Saran qui quitte Top Chef, une réaction, demande Robin Hood. Non, tu suis pas Top Chef.
J'ai jamais regardé Top Chef.
Ah mince,
Nicolanta, ni rien, je regarde pas la télé.
Alors, tu es dans mon cas d'il y a un an, c'est-à-dire que j'avais jamais regardé Top Chef avant que toute l'équipe m'engraine à regarder. Je suis assez triste, j'aimais bien Michel Saran. J'ai regardé que deux saisons, du coup, dont une en replay, mais il était plutôt cool. Peut-on, alors qu'il n'a pas joué en NFL, dire que Matt Jones est au-dessus de Tua Tagovailoa, demande Robert Papa Desbordes.
Ça dépend. Le Tua d'avant blessure, non. Le Tua d'après blessure, on verra, c'est pas impossible, mais. Disons qu'au niveau hype, Tua était quand même au-dessus, mais bon, c'est la même problématique. Ils étaient tous les deux à Alabama, tous les deux super bien entourés, et ils doivent prouver en NFL que ce n'était pas que l'environnement et que c'était leur talent intrinsèque.
C'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé, ils ont été dans la même équipe. Hein. Alabama, ils ont fait une.
Et Jalen Hurts aussi était dedans.
Oui,
il y avait Jalen Hurts, Tua Tagovailoa et Mac Jones.
Ouais. Ils ont fait quoi, une année ou deux en commun ? Ou trois ?
Avec Mac Jones ?
Mac Jones et Tagovailoa.
Mac Jones et Tagovailoa, ils doivent faire une année. Oui. Peut-être deux.
Doc Sinoc, Alain, est-il un fanboy déçu de Rodgers quand on voit comment il a l'air saoulé dans le podcast de présentation de Green Bay ? C'est pour ça que je l'ai dit là, je me suis dit, c'est vrai que j'ai l'air un peu blasé. Gage pour les pronos, écrire les paroles d'une chanson sur la NFL et les chanter dans un podcast. Bonne saison à tous. Merci Doc Sinoc. Jeff Dowan, quelles équipes seraient au Super Bowl si seulement les quarterbacks remplaçants jouaient ?
Si seulement les quarterbacks remplaçants jouaient.
Alors, il a des bonnes déclinaisons, c'est-à-dire qu'il demande s'il y aurait des équipes qui se casseraient complètement la tronche, c'est-à-dire Green Bay ou Seattle, a priori, là, ce serait cataclysmique, même les Buccaneers, ou est-ce qu'il y aurait des équipes dont le bilan changerait très peu, voire supérieur, comme Denver ou San Francisco, où on ne sait pas trop si ce qu'il y a sur
Denver, j'y crois pas. Moi, je crois plus en Bridgewater quand. Ben, je dis. Oui, alors, on ne va pas prendre Chicago, parce qu'en vrai, ce n'est pas un vrai backup, c'est juste.
Il attend.
Voilà, ils sont en train de faire attendre les gens. C'est compliqué quand même comme question. Ben, je dirais les Bills, parce que Mitch Trubisky, mine de rien, on peut lui tomber dessus tout ce qu'on veut. Mais Mitch Trubisky, il emmène les Bears en playoff l'année dernière. Il a déjà eu un Pro Bowl. Il est irrégulier.
Okay.
Ça ne sera jamais un franchise quarterback, si tu veux. mets-le dans l'attaque des Bills. Je pense qu'il peut les emmener loin. S'il n'y a que des backups partout, il peut les emmener loin.
Je ne pensais pas qu'on finirait ce premier épisode avec Victor sur l'apologie de Mitchell Trubisky qui pourrait emmener l'équipe loin.
Moi, je vous le dis.
T'es vraiment chaud sur l'effectif des Bills alors, hein, parce que si t'en es à croire que Mitchell Trubisky peut les emmener loin.
Et je t'en donne un dernier, Jacoby Brissett aux Dolphins.
C'est vrai.
S'il n'y a que des backups sur le terrain, Jacoby Brissett, c'est quand même un mec qui a starté, qui est dans le haut du panier des backups.
Ok, ok. Je termine avec la question d'Aaron B. 17 Allen qui dit quelles seront les équipes surprises de la saison selon vous. Et bah bim, spoiler, ce sera le sujet du fauteuil. Voilà. Donc je termine avec un teasing insoutenable pour l'émission de dimanche. C'est comme ça que se termine l'épisode 430. Du podcast Jean Actu, l'émission vous était présentée par Unibet, votre détour web pour les paris en ligne sur la NFL, web ou appli. On les remercie de nous soutenir pour la 5e année. Je remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. J'avais dit que je le ferais pour l'émission de rentrée parce qu'il y en a eu pas mal depuis la dernière émission longue du mois de juin. Pour la reprise, on remercie Alex989, Les Cartes en Main, Setsuna, Ririk le Géant, Ben13, The Manant, Kevin, Lerkin62, Pascal Braco, Tom H, Noardi, Donian, Yves, Redskin67, Alex2B, Tyfire, Tech, Julien Brossinon, Diabelli07, Fredcool27, Gilles, Grégory Baptiste, Chocomlabraise, Bapt, Krasrap, Babouchnikov, Bruno, John, Alexis, David, Jim Gaul, Arnaud Doucet et Mr. Burp. Merci à tous et tous ceux qui ont demandé des contreparties. Normalement, c'est en chemin, ça a été posté par mes blancs chemins. Merci beaucoup, Victor.
Et merci à toi.
Ravi de t'avoir accueilli pour cette première de la saison. On vous donne rendez-vous, évidemment, comme d'habitude, sur le site. Pour les réseaux sociaux, c'est @TDActu sur Twitter et Facebook, @JeanActu en entier sur Instagram. Les comptes personnels sur Twitter, @VictorRoulier. Pour
c'est
toi,
ça.
En tout attaché. Alain Mattei, pour moi-même, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Évidemment, l'heure est venue de vous souhaiter une très, très bonne saison NFL parce que oui, ça y est, cette fois, c'est parti. Si vous nous écoutez jeudi, c'est ce soir. Et si vous nous écoutez après, eh ben, c'est dimanche à 19h avec le fauteuil à 18h. Nouveau décor, on se retrouve dimanche. Ciao, ciao.
Salut à tous.
Bonne saison.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.